Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une campagne de sensibilisation au danger de la drogue au travail qui a eu lieu en 2016 dans une activité inattendue, celle des marins-pêcheurs. Mais l'information est publiée dans le magazine Le Marin et elle semble fiable. Parmi les drogues, la plus répandue au travail et la plus dure de manière générale, c'est-à-dire l'alcool, toucherait seulement, si on peut dire, 12% des marins. La consommation de cannabis, elle, est plus élevée puisqu'elle est détectée chez 16% des marins, 28% des pêcheurs et même 46% des pêcheurs de moins de 35 ans. La cocaïne n'est pas en reste puisqu'elle touche 4,5% des marins et 8% des jeunes marins. En 2016, une campagne vidéo prenait donc ces chiffres très au sérieux et mettait en garde les travailleurs de la mer des risques encourus pour eux et pour l'équipage avec ce mot d'ordre « la mer est dangereuse, n'en rajoutons pas ». Les sociologues attirent également notre attention sur la banalisation de l'usage des drogues au travail dans tous les secteurs d'activité. Albert Augien, cité par Astrid Fontaine, décrit la situation comme ça. Des décennies de recherches ont établi que la consommation régulière de stupéfiants est une pratique relativement réglée qui, même si elle fait encourir des risques sanitaires aux individus qui s'y adonnent, ne les détruit pas systématiquement et entraîne rarement des conséquences catastrophiques pour l'ordre social. Fin de citation. À côté des junkies, des marginaux, des héroïnomanes, des délinquants, des accros au crack et autres drogués de notre imaginaire collectif, voici donc une nouvelle catégorie d'usagers relativement insérés qui ne fréquentent aucune structure de prise en charge sanitaire et qui ne sont pas repérés par les dispositifs de prévention. Les drogues consommées par ces usagers socialisés sont les mêmes que celles prises par les marins, mais il faut y ajouter des nouveautés comme la méphédrone, une drogue chimique stimulante qui appartient à la famille de la MDMA et des amphétamines et que l'on trouve en vente sur Internet. Tout de suite donc, vous l'avez deviné, c'est le 6e épisode d'Une odeur de poudre intitulé « Sniffer en travaillant », un récit d'Adila Benedjaïssou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand tu consommes, tu captes immédiatement les gens qui consomment, en fait. Dans le boulot, tu t'en rends compte très vite. Et puis même, il y a des profils, je veux dire, on se repère un peu au look, au van, beaucoup aussi.
S'il y a des gens que les consommateurs de drogues festives méprisent, c'est bien ceux qui prennent de la drogue pour travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ceux qui le font en général s'en cachent. Comme quoi, on trouve toujours plus drogués que soi. Le tabou est si fort que malgré mon envie de parler de drogue au travail, je ne trouvais personne pour répondre à mes questions. Et puis, je me suis souvenu d'Ismaël.
Ça fait un mois et demi que je suis producteur. Un petit peu de cinéma, mais surtout de télévision. Avant, j'étais scénariste, surtout sur des séries.
Ismaël est un collègue que j'ai connu dans mon autre métier. On était en train d'écrire un scénario de téléfilm ensemble quand la production m'a annoncé que le projet était arrêté parce qu'il était parti en cure de désintoxication. Plus d'un an après cet incident, il a accepté de me revoir.
Tu te souviens quand est-ce que tu as commencé à consommer de la cocaïne dans le boulot ?
J'en consommais énormément pour me marrer. J'adorais faire la fête, sortir et tout. J'aime pas dormir. J'aime pas ne rien faire. J'aime pas être dans un état calme. Tu vois, j'aime bien l'excitation, la stimulation. Donc, je consommais de la coke pour ça. Le déclic, qui est un piège hein, aussi, c'est que tu te rends compte que ce truc que tu prends pour le fun peut te rendre super performant aussi. Et ça ne veut pas dire que le résultat est meilleur, le résultat est même plutôt moins bon. Mais c'est facile et jouissif. Voilà. Une journée de travail, ça n'existait pas. Je dormais toutes les 50 ou toutes les 80 heures. La plupart du temps, je passais entre deux jours et demi et 4 jours sans dormir. Et puis après, je me disais, bon, bah là, je me défonce aux tranquillisants et aux hypnotiques. Et je passais 20 heures à dormir. Et je recommençais. Donc, c'était pas des journées de travail, c'était genre des tunnels de travail. Il y en avait un tas tout le temps sur le bar, dans le salon, à côté de la table sur laquelle je travaillais. Les horaires, ça n'existait plus. C'est-à-dire que le jour et la nuit, ça n'existait plus. Les repas, ça n'existait plus. Je me défonçais. Ça durait un jour et demi si j'étais crevé ou si j'avais pas de thune. Ça pouvait durer 4 jours si j'avais de la thune et de la pêche. Et c'était pas, tiens, je me lève à 9h, je vais me faire une trace et je vais commencer à écrire. Non, c'était, je me lève à 11h du mat, je téléphone à ma mère pour la rassurer. Après, je vais faire un peu de shopping, après je discute avec ma femme, après je vois mes enfants. Et mes enfants, je vis pas avec eux, donc il suffisait d'être en état 2 jours par semaine, quoi. Et puis, à 6h du soir, je commence à taper, et puis là, ça dure 1, 2, 3, 4 jours. Et en même temps, j'écris. C'était pas une organisation, quoi. C'était une espèce de trip permanent.
Et t'avais aussi des échéances, parce que c'est un métier où les producteurs, ils te demandent un texte pour telle date...
Ah ouais, mais moi, je rendais avant. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que... Quand j'avais plus de cam, parce que j'avais plus de fric, ou parce que je commençais à me dire « Ouh là là, je me détruis, faut que j'aille plus doucement », là, je pouvais être en retard. Mais autrement, j'étais toujours prêt à temps, et en général, je faisais plus que ce qu'on me demandait, et j'allais plus vite que les échéances.
Et tu crois pas que les gens, ils se doutaient de quelque chose ?
Pas tous, en fait. Hein. Il y a des gens qui ont compris. Ils ont compris, mais ils s'en foutaient.
Ce qui les intéressait, c'était d'avoir les textes, quoi.
Ouais, c'est le rendu, ouais. Mmh. Je pense à cette série que j'ai entièrement écrite sous cocaïne. Le projet pour lequel j'ai été payé 3000 balles, je l'ai réécrit 18 fois. J'exagère, mais au moins 12.
Et c'est une série qui a été produite.
Ouais, ouais, elle va sortir, là. Elle est en tournage. C'est une chaîne publique. Le problème avec la C, c'est que c'est pas seulement une drogue... qui est bonne pour ses effets, c'est qu'elle te rend compétitif, productif, adaptable, battant, elle est parfaitement calée avec toutes les problématiques de notre société aujourd'hui, quoi. Il y a plein de paliers avec la drogue, il y a la désinhibition, on ose faire des trucs qu'on n'oserait pas faire normalement, quoi. C'est un truc qui ouvre des portes, vraiment, quoi. C'est-à-dire que notre esprit, il est limité par nos peurs, par nos névroses, par les conventions sociales, par les attentes qu'on imagine chez les autres. Et quand on se drogue, tout ça explose. Et franchement, parfois, on fait des choses intéressantes. La drogue, c'est un antidouleur. Ça supprime la douleur de créer, parce que écrire, on est seul, on ne sait pas, on se dit « c'est peut-être de la merde, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que cette phrase doit finir comme ça ? Enfin, c'est en permanence des questions, en permanence des aiguillons, quoi. Et la drogue, ça supprime ça. On n'écrit pas forcément des trucs qu'on aime. Hein. On est obligé de faire avec un marché, avec une commande. La cocaïne fait que on n'en a rien à branler, en fait. Je veux dire, c'est juste fun, quoi. Le doute n'existe plus. Je veux dire, tout ce qu'on fait est bien, forcément. Il n'y a aucun obstacle. On est capable de tout. Écris-moi les aventures de Bécassine dans la mafia pour demain. Ah bah ouais, il n'y a pas de problème. Le doute n'existe pas, quoi. Le doute sur soi et sur la proposition qui nous est faite. Et ce qui m'amuse, c'est de voir que des gens ont acheté mes délires. Je peux donner l'exemple d'une série que j'ai initiée. Je me dis, j'étais forcément dans un état second, quoi. Parce que c'est... d'une telle bizarrerie et d'une telle complexité que je vois que ça n'a pas été conçu dans un état normal, quoi.
Après, quand tu te relis, quand la drogue arrête de faire effet.
Je peux pas parler de ça, parce que moi, j'étais un consommateur régulier. C'est-à-dire que j'ai passé des années défoncées, sans sortir de cet état, jamais. Quelqu'un qui arrive à maîtriser sa consommation, qui se dit, par exemple... une fois tous les 15 jours, je vais me prendre un acide Et je vais peindre. Ok. Mais quelqu'un qui, comme moi, prenait entre 3 et 7 grammes de cocaïne par jour pour écrire...
Entre 3 et 7 grammes, c'est énorme.
Bah, en fait, c'est des doses qui sont mortelles. Mais que j'ai supporté, je sais pas pourquoi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tout le monde a un mode de consommation différent. Il y a des gens, ils vont commencer par se faire des petites traces, et puis elles seront de plus en plus grosses, de plus en plus grosses, de plus en plus grosses. Moi, ce que j'aime, c'est commencer par une dose énorme. Prendre le maximum. Ça m'est arrivé de prendre souvent un gramme d'un seul coup.
Ah bon ?
Ouais. En deux traces. Ah bah ça te fait un flash quoi. Voilà, et c'est ça que j'aime. Et après j'entretiens ce flash avec des petites doses. Se pose la question de l'argent en fait aussi. Quand j'ai acheté entre 5 et 20 grammes à la fois. Donc 20 grammes, ça fait que si le mec te fait une petite promo, ça fait 1000 euros quoi. Moi j'ai vécu 3 ans dans un 15 mètres carrés alors que je devais gagner 100 000 balles par an. Mais je dépensais 60 000 en coke. Moi, je m'en foutais de vivre dans 15 mètres carrés. Je veux dire, ma vie, elle était pleine d'étincelles parce que j'étais défoncé tout le temps. Et tout s'organise autour de ça, quoi. Je travaille bien et je gagne beaucoup d'argent qui me permet d'acheter la drogue qui me détruit et qui me permet de travailler bien et de gagner beaucoup d'argent. En fait, c'est absurde. C'est totalement absurde. Je sais qu'un des trucs qui m'a fait prendre ma décision d'arrêter, c'est que... J'ai acheté 5 grammes pour tenir le week-end. Je me les suis envoyés en 3 heures. Et je me suis dit non, là, ça va plus. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 10 grammes, j'aurais continué. Mais jusqu'à la mort, en fait. Tu deviens un putain d'esclave, quoi. Toujours à se dire, est-ce que j'ai mon stock? Là, j'ai un rendez-vous à 14 heures. Alors, est-ce que j'aurai un gramme avant? Et puis ce soir j'ai ça, donc il va m'en falloir deux. Un esclave. Et puis physiquement c'est très dur aussi. J'ai commencé à avoir vraiment des problèmes de toxico, problèmes physiologiques. Hein. Moi j'ai un trou dans la cloison nasale qui est gros comme ça. Faut que je me fasse opérer, que je me fasse refaire le nez. Je pense qu'au niveau cardiaque j'ai bien douillé. Neurologiquement, je sais très bien que j'ai régressé. J'ai plus la même mémoire, j'ai plus la même élocution, j'ai plus. Vraiment, ça casse quoi. Ça met en morceaux. Des choses qu'on récupère jamais.
Comment t'as fait pour arrêter ?
Bah, j'ai fait une petite cure de désintox avec un médecin qui m'a fait un cocktail de médicaments pas trop puissants mais assez efficaces. Puis j'ai serré les dents quoi. En fait, faut accepter de passer, un, par le manque, et deux, par un truc qui est beaucoup plus long, qui s'appelle la dépression. Et ça, c'est pas marrant. Le sevrage physique a duré 3 semaines. Hein. Le sevrage psychologique, 1 an. 1 an pour me dire, ça sera plus jamais aussi facile qu'avant, quoi. Voilà.
Et... Quand est-ce que tu t'es mis à réécrire à jeun ?
Il n'y a pas si longtemps, en acceptant que ça aille moins vite et que ça me fasse mal parfois.
France Culture, les pieds sur terre.
Le dessin, c'est la continuité de l'âme, et la parole traduit des choses, mais le dessin, parfois, traduit d'autres choses qu'on mettrait peut-être une heure à expliquer en parole.
Malgré mes recherches, je n'ai trouvé que des gens qui ont un métier de création pour me parler de drogue au travail. Non pas que la drogue n'existe pas dans d'autres métiers, mais c'est toujours plus glamour de dire qu'on prend de la drogue pour avoir des idées que pour visser des boulons.
J'ai 25 ans et je suis designer d'espace.
Et justement... Ce qui m'a plu chez Alexandre, c'est qu'il fait les deux dans son boulot. Il a des idées et il vise des boulons.
Quand je me drogue au travail, ce qui est quand même occasionnel, faut le préciser, c'est pas souvent, sinon ma vie serait très vite, hein, je pense. Bah, je prends plus des stimulants, parce que la cocaïne, ça rend très vite con. Donc quand on est au travail, s'il doit y avoir des échanges, ça ne marche pas. Le speed, c'est un stimulant qui marche assez bien, mais qui fait très peu d'effet. en termes de visuel ou ce genre de choses, si ce n'est rien en fait. Donc on est juste éveillé, c'est un café x10 en gros. Donc ça m'est arrivé d'en prendre. Et puis sinon il y a la méphédrone, c'est une drogue qui vient de Londres il me semble. Voilà, ça c'est aussi un stimulant. C'est quelque chose qui coûte pas très cher.
Ça veut dire quoi pas cher?
Pas cher, par exemple, c'est 25 euros le gramme. Donc c'est plus de deux fois moins cher qu'un gramme de cocaïne. Et ça fait un petit effet plus fort, enfin, je dirais plus fort que la cocaïne et le speed en termes d'effet un peu visuel. Donc parfois quand on est lâché sur une branche vraiment artistique, je dis pas que ça va débloquer les choses, hein, mais on rentre un peu plus facilement dedans en fait. Par exemple, on était sur une exposition et on était plusieurs à créer dans l'exposition en tant qu'artiste. Et donc du coup, bah, vu qu'on travaillait plusieurs artistes ensemble, main dans la main, bah, on a fait une session qui a duré presque 48 heures. Et donc en 48 heures, à plusieurs éléments, on ne dormait pas. Et du coup, on a réussi à produire un travail de groupe en 48 heures, en fait, qui nous aurait pris facilement une semaine de taf.
Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas y passer une semaine ?
Parce que parfois, en tant que, je dirais qu'en tant qu'artiste, il y a aussi le côté impulsion, frénésie. Et donc, sur certains projets, voilà, où il faut être impulsif et limite fou, je dirais, bah mieux vaut que la folie dure 48 heures plutôt qu'une semaine.
Vous étiez combien, par exemple ?
On était 4 à travailler là-dessus dans un très grand atelier. On travaillait main dans la main, on vérifiait à chaque fois ce que faisait l'autre, voir s'il y avait une cohérence avec ce qu'on faisait nous. Et puis voilà, à trouver la même charte graphique. Et on avait convenu entre nous, on s'était dit à l'avance qu'il y allait avoir beaucoup de travail et que le café ne suffirait pas. La méphédrone, avec ce genre de stupéfiant en fait. Une fois qu'on en prend trop, on est complètement inefficace. Et donc il y a quand même une certaine limite à avoir dans les prises. Voilà, c'est juste pour rester éveillé tout en se mettant quand même dans une phase de concentration un peu perchée. Et on avait commencé ça vraiment quand on était à partir du moment où on s'était déjà tous dispatchés le travail. En journée en fait, on avait fait une très grande réunion, on continuait, on faisait des essais graphiques. Et c'est seulement le soir vers 22h qu'on a commencé à prendre une trace. Puis ça a continué jusqu'au lendemain. Même sur le lendemain, je crois 6h du matin, quelque chose comme ça. Il y avait des cartographies ou des, on va dire des jeux de couleurs très abstraites, des peintures très abstraites. C'était quelque chose d'assez assez prenant, un peu fractal, dans lesquels on rentre, dans lesquels on va se glisser. Donc voilà, pour ça il fallait regarder ça de loin, mais en même temps très vite rentrer sur les micro-détails. Et donc voilà, après c'est quelque chose qui a des répercussions sur le corps, ça se sent vraiment. Donc voilà, faut vraiment écouter son corps, faire attention là-dedans. Et par exemple, tu vas mettre un ou deux jours à t'en remettre un petit peu. Même mentalement, quand tu rentres dans des cartographies, enfin dans des choses abstraites pendant par exemple 72 heures, les rêves que tu fais ensuite la nuit sont très très fortes. Donc voilà, faut aussi se reposer, redescendre un peu de ça, parce que bon, la matrice dans laquelle on se lance, c'est pas la même que la matrice de notre société. Après, je pense que cette drogue est vraiment dangereuse d'un point de vue de la santé, peut-être sur les reins, sur les muqueuses, sur plein de choses comme ça. Après, on sait pas ce que c'est, donc faut faire attention, quoi. Mais je préfère utiliser des drogues, on va dire, qui sont à 99% pures, dont on ne sait pas ce que c'est, que des drogues à 50% de pureté de cocaïne, et le reste dedans, c'est des choses dégueulasses. Et en fin de compte, quel est le plus dégueulasse, en fait ? On ne sait pas vraiment. Ouais. La cocaïne, c'est... maintenant, c'est limite banal. La méphédrone, on ne sait pas trop ce que c'est, sauf que la méphédrone, au moins, elle a 99% de pureté, quoi.
Cette création, tu n'aurais pas pu la produire sans méphédrone ?
Bien sûr que si, oui, complètement. Mais là, c'était vraiment un parti où l'exposition, je crois, était une semaine après. Puis je crois que c'était une des premières expositions, donc on avait aussi un peu peur de ne pas réussir. Et après, en fait, il y a eu plusieurs projets, voilà, où je l'ai utilisé pour répondre au projet de manière assez rapide, en fait. Dans le design d'objets, il y a toujours un côté aléatoire. En fait, il y a peut-être 80% de réellement prévu et 20% de on fait avec ce qu'il y a. Sur des projets, oui, design de mobilier, sur des projets d'aménagement même. Quand on est sur des objets, on va dire, simples, pas trop dangereux à manipuler, l'inconvénient, c'est pour son cerveau. Mais quand on est sur des objets difficiles à manipuler, là, clairement, je réfute le fait de prendre de la drogue, quoi. Enfin, somme toute logique.
Mais ça t'est déjà arrivé, parce que t'as l'air de...
Ça m'est déjà arrivé une fois de manipuler. Enfin, c'était une scie sur table. Enfin, oui. Et c'était compliqué. Je voulais faire l'essai. Et à un moment donné, j'ai arrêté, quoi, parce que j'ai senti que mon bras pouvait partir dans la machine. J'avais essayé de travailler justement sous kétamine pour voir un peu l'aspect de la dissociation. Ouais, on dit que c'est un dissociatif, corps, esprit, tout le tralala. Et j'avais le besoin de voir justement la motricité, les gestes, est-ce qu'il y a un décalage. Quand je suis après sur la scie, vu que c'est dangereux... Est-ce que j'arrive à bien plaquer ? En fait, je garde mes gestes intuitifs, que j'avais appris dès le départ aussi.
C'est hyper risqué, non ?
Ça peut être très risqué, oui. Oui, ça peut être très risqué. Après, moi, ce que je voulais voir, justement, c'était le maintien du cerveau. Après, je sais que je n'allais pas tomber dans les pommes d'un seul coup. J'avais pris une dose, juste ce qu'il fallait pour pas que ça déborde non plus. Il ne faut pas être con non plus, quoi.
Tu te souviens quand est-ce que tu as fait ça pour la première fois ? De travailler et de consommer ?
C'était vraiment plus pour les soirées et puis à un moment donné pendant mes études dans une école d'État et voilà avec des charrettes avec des rendus de projets à faire rapidement et à un moment donné il y avait une semaine où j'avais beaucoup de rendus et il fallait que je dorme très peu donc les cafés ne suffisaient pas et du coup j'avais commandé mon petit gramme et puis au moins j'ai pu enquiller comme ça une grosse charrette, une nuit blanche et avoir le rendu de projet le lendemain qui s'était très bien passé. Il y a eu d'autres phases de travail comme ça où j'ai pu utiliser la méphédrone en fait comme par exemple quand nous les jeunes on va en soirée puis il est 5h du matin et en fait il faut faire des choses de sa journée et puis du coup, on va au travail et puis on prend 3 traces peut-être dans la journée juste pour se maintenir éveillé et pas mourir. Mais c'est comme si, en fait, on prenait 10 cafés dans la journée, peut-être. Je dirais ça comme ça. Et donc voilà, parce que pour moi, la drogue n'est pas... c'est quelque chose de récréatif. C'est pas quelque chose de... Surtout les tout ce qui est amphétamine ou ce genre de choses. Pour moi, c'est que récréatif. C'est pour poursuivre plus loin dans la nuit, en fait. Ça dépend aussi dans quel secteur on travaille. Mais si on travaille avec beaucoup de personnes, donc avec une majorité de personnes, la majorité de personnes ne touche pas de drogue, hein, généralement. Tu te ramènes avec le nez qui te gratte toutes les 2 secondes, avec les petites sueurs hyperactifs, tout le tralala, on va se dire qu'il n'y a pas que du café, quoi. Et forcément, il y a aussi un côté où c'est tabou, la drogue dans la société. Donc voilà, ça peut faire peur aux gens, ça peut... Donc c'est pour ça que quand on travaille, pour moi, quand on a un client, on ne doit pas se montrer dans un état second devant lui, en fait. Nous, en tant que jeunes, on y a plus facilement accès qu'à l'époque. Après, je parle pas des 68 heures. Mais pour moi, le plombier, quand il va boire ses 4 canons à la fin de la journée ou sur le chantier limite, oui, c'est juste un écart générationnel qui on se comprend pas. Moi, je le comprends, mais lui, il va pas nous comprendre, par exemple. Parce que c'est soi-disant plus loin que ce qu'on fait, alors que je suis pas si d'accord que ça.
Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. What was good enough for my grandpa? It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. It's good enough for me. Sister, don't get worried, sister.
c'était le sixième épisode de la série d'Adila Benedjaizou, Une odeur de poudre, intitulée aujourd'hui Sniffer en travaillant. Un reportage d'Adila Benedjaizou, réalisé par Yaël Mandelbeau. Merci à Milan, à Jeanne Delecroix, qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre, à Camille Richir et à Emmanuel Morse d'Incan. Fashion morphine is good enough for me. I was good enough for Billy Burroughs. I was good enough for Billy Burroughs. I was good enough for Billy Burroughs. It's good enough for me. Sister, don't get worried, sister, don't get worried, sister, don't get worried, because the world is almost done. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. It was good enough for Isabel Eberhard. It was good enough for Isabel Eberhard. It was good enough for Isabel Eberhard. That's good enough for me. Sisters are